Chapitre 6 La goule en pyjama. Dans les jours qui suivirent, le choc provoqué par la mort de Folleuil hantait la maison. Harry s'attendait toujours à le voir franchir la porte de derrière de son pas claudiquant, comme les autres membres de l'ordre qui entraient et sortaient pour apporter les nouvelles. Harry sentait que seule l'action pourrait atténuer le chagrin et la culpabilité qu'il éprouvait. Il devait se lancer le plus vite possible dans sa mission de chercher et de détruire les Horcruxes.
« De toute façon, tu ne peux rien tenter au sujet des... »
Ron forma silencieusement sur ses lèvres le mot « Horcrux ».
« Avant d'avoir 17 ans, tu es toujours soumis à la trace. Et on peut établir des plans ici aussi bien que n'importe où ailleurs, non ? À moins que... »
Il baissa la voix en un murmure. « Tu ne saches déjà où sont les sujets quoi ?»«
Non, je n'en sais rien, » avoua Harry.
« Je crois qu'Hermione a fait quelques recherches, » poursuivit Ron. « Elle m'a dit qu'elle attendait que tu sois là pour en parler. »
Ils étaient assis à la table du petit déjeuner. M. Weasley et Bill venaient de partir travailler et Mrs. Weasley était montée réveiller Hermione et Ginny, tandis que Fleur s'était éloignée d'un pas nonchalant pour aller prendre un bain.
« La trace sera levée le 31, » dit Harry.
« Ça signifie que je dois rester ici 4 jours seulement. Ensuite, je pourrai... »«
5 jours, » rectifia Ron d'un ton ferme. « Nous devons être là pour le mariage. Sinon, elles vont nous tuer. »
Harry comprit que « elle » désignait Fleur et Mrs. Weasley.
« Ça ne fait 1 jour de plus, » ajouta Ron en remarquant le regard frondeur de Harry.
« Elles ne peuvent donc pas se rendre compte de l'importance de... »
« Bien sûr que non, » l'interrompit Ron.
« Elles n'en ont pas la moindre idée. Et puisque tu en parles, je voudrais te dire un mot à ce propos. »
Il jeta un coup d'œil vers le couloir pour s'assurer que Mrs. Weasley n'allait pas revenir tout de suite, puis se pencha vers Harry.
« Maman a essayé de nous faire parler, Hermione et moi. Elle veut savoir quels sont nos projets. La prochaine fois, c'est avec toi qu'elle essaiera. Alors, prépare-toi.
Papa et Lupin nous ont posé des questions, eux aussi. Mais quand on leur a répondu que Dumbledore t'avait recommandé de ne rien dire à personne en dehors de nous, ils t'ont laissé tomber. Maman, elle, insiste. Elle est bien décidée à savoir. »
Quelques heures plus tard, la prédiction de Ron se vérifia. Peu avant le déjeuner, Mrs. Weasley emmena Harry à l'écart des autres en lui demandant de l'aider à identifier une chaussette solitaire qui, d'après elle, était peut-être tombée de son sac à dos. Dès qu'elle l'eut isolée dans la minuscule arrière-cuisine, elle se lança.
« Ron et Hermione semblent penser que vous allez abandonner Poudlard tous les trois ?»
commença-t-elle d'un ton léger et détaché.
« Oui, » répondit Harry. « En effet, c'est vrai. »
Les soreuses tournaient toutes seules dans un coin, passant entre ses rouleaux l'un des maillots de corps de M. Weasley.
« Puis-je te demander pourquoi vous laissez tomber vos études ?»
reprit Mrs. Weasley.
« Eh bien, Dumbledore m'a laissé des choses à faire, » marmonna Harry.
« Ron et Hermione sont au courant et veulent venir avec moi. »«
Quelle sorte de choses ?»«
Désolé, je ne peux pas... »«
Pour te parler franchement, j'estime qu'Arthur et moi avons le droit de savoir et je suis sûr que Monsieur et Mrs. Granger seraient d'accord avec moi, »
répliqua Mrs. Weasley. Harry avait redouté une attaque du genre « parent inquiet ». Il se força à la regarder dans les yeux et remarqua qu'ils avaient exactement la même couleur marron que ceux de Ginny, ce qui ne l'aidait pas.
« Dumbledore ne voulait pas que quiconque d'autre soit au courant, Mrs. Weasley. Je suis désolé. Ron et Hermione ne sont pas obligés de venir avec moi, c'est eux qui l'ont décidé. »
« Je ne vois pas pourquoi, toi, tu devrais partir, »
répliqua sèchement Mrs. Weasley, abandonnant à présent tout faux-semblant.
« Vous êtes à peine majeurs, tous les trois. C'est de la pure folie. Si Dumbledore avait une tâche à accomplir, il avait l'ordre tout entier à sa disposition. Harry, tu as du mal à comprendre ce qu'il te disait. Il t'a sans doute parlé de quelque chose qu'il voulait voir réaliser et tu as cru qu'il te demandait à toi de...
« J'ai très bien compris ce qu'il m'a dit, » répondit Harry d'un ton catégorique.
« Il faut que ce soit moi. »
Il lui rendit la chaussette solitaire qu'il était censé identifier et dont les motifs représentaient des cannes de jonc doré.
« Ce n'est pas la mienne.
Je ne suis pas supporter du club de Flaquemart. »«
Comment ?
Ah, non, bien sûr !»
dit Mrs. Westley, qui avait repris son ton détaché avec une soudaineté déconcertante.
« J'aurais dû m'en douter. Eh bien, Harry, pendant que tu es encore là, peut-être accepteras-tu de nous aider un peu à préparer le mariage de Bill et de Fleur ? Il y a encore tant de choses à faire. »
« Mais, bien entendu !» répondit Harry, décontenancé par ce brusque changement de sujet.
« C'est très gentil à toi !»
répliqua-t-elle. Elle lui sourit et sortit de l'arrière-cuisine. À compter de ce moment, Mrs. Westley donna tant de travail à Harry, Ron et Hermione pour aider aux préparatifs du mariage qu'ils n'avaient presque plus le temps de réfléchir. L'explication la plus indulgente qu'on pouvait trouver était que Mrs. Westley s'efforçait de détourner leurs pensées de Folleuil et des terreurs qu'ils avaient endurées au cours de leur récent voyage. Mais après 2 jours entiers passés à astiquer les couverts, harmoniser les couleurs des faveurs, des rubans et des fleurs, dégnommer le jardin et à aider Mrs. Westley à préparer d'immenses plats de petits fours, Harry la soupçonna d'avoir en tête un motif bien différent. Toutes les tâches qu'elle leur confiait semblaient avoir pour but d'éloigner Ron, Hermione et lui-même les uns des autres. Depuis le premier soir où il leur avait raconté comment Voldemort avait torturé Ollivander, ils n'avaient plus jamais eu l'occasion de leur parler seul à seul.
« Je crois que maman s'imagine qu'en vous empêchant d'être ensemble et de faire des projets, elle pourra retarder ton départ »,
murmura Ginny à Harry le troisième soir, alors qu'il mettait la table pour le dîner.
« Et qu'est-ce qui va se passer, à son avis ?»
marmonna Harry.
Elle pense peut-être que quelqu'un d'autre va aller tuer Voldemort pendant qu'elle nous retient ici à cuisiner des vols au vent.
Il avait parlé sans réfléchir et vit Ginny pâlir.
« C'est donc vrai ? » murmura-t-elle. « C'est ce que tu vas essayer de faire ?»«
Je...
Non, non, non. Je disais ça pour rire, » répondit Harry, tentant de se dérober.
Ils se regardèrent dans les yeux. Il y avait plus que de l'effarement dans l'expression de Ginny. Harry se rendit compte brusquement qu'il ne s'était plus trouvé seul avec elle depuis les heures volées dans les recoins secrets de Poudlard. Et il était sûr qu'elle aussi se souvenait. Tous deux sursautèrent lorsque la porte s'ouvrit pour laisser passer M. Westley, Kingsley et Bill. D'autres membres de l'ordre venaient souvent dîner désormais, car le terrier remplaçait le 12 Square Grimaud comme quartier général. M. Westley avait expliqué qu'après la mort de Dumbledore, leur gardien du secret, chacun de ceux à qui il avait révélé l'emplacement du Square Grimaud était devenu à son tour gardien du secret.
« Et comme nous sommes une vingtaine dans ce cas, le pouvoir du sortilège de Fidelitas s'en trouve considérablement affaibli. Les mange-morts ont 20 fois plus de chances d'arracher le secret à quelqu'un. Nous ne pouvons donc plus compter dessus bien longtemps. »
« Vous ne croyez pas qu'à l'heure qu'il est, Rogue a déjà donné l'adresse au mange-mort ?» demanda Harry.
« Folleuil a jeté 2 ou 3 maléfices contre Rogue au cas où il retournerait là-bas. Nous espérons qu'ils seront suffisamment puissants pour l'empêcher d'y entrer et lui lier la langue s'il essaie de parler de la maison. Mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Il aurait été déraisonnable de conserver cet endroit comme quartier général à présent que sa protection est devenue si incertaine. »
Il y avait tellement de monde dans la cuisine ce soir-là qu'on avait du mal à manœuvrer son couteau et sa fourchette. Harry se retrouva serré contre Ginny. Après ce qui s'était passé entre eux avant le dîner, leurs longs regards muets, Harry aurait préféré qu'ils soient séparés. Il faisait tant d'efforts pour essayer de ne pas lui effleurer le bras qu'il parvenait à peine à couper son poulet.
« Pas de nouvelles pour Folleuil ?» demanda Harry à Bill.
« Non, rien, » répondit celui-ci. Aucune cérémonie funèbre en hommage à Maugret n'avait pu avoir lieu car Bill et Lupin n'avaient pas réussi à retrouver son corps. Il était difficile de savoir où il était tombé, compte tenu de l'obscurité et de la confusion qui avait régné pendant la bataille.
« La Gazette du Sorcier n'a pas dit un mot de sa mort ou de la recherche de son corps, » poursuivit Bill. « Mais cela ne signifie pas grand-chose. Il y a beaucoup de sujets qui sont passés sous silence ces temps-ci.
Le ministère n'a toujours pas prévu d'audience contre moi. » lança Harry à M. Westley, assis de l'autre côté de la table. M. Westley hocha la tête en signe de dénégation. « Pourtant, je n'étais toujours pas majeur quand j'ai utilisé la magie contre les mange-morts. Est-ce parce qu'ils savent que je n'avais pas le choix ou parce qu'ils préfèrent ne pas m'entendre annoncer au monde entier que Voldemort m'a attaqué ?
Ah, c'est plutôt la deuxième raison, me semble-t-il. Scrimgeour ne veut pas admettre que tu sais qui est devenu aussi puissant que lui, ni qu'il y a eu une évasion massive à Azkaban.
Bien sûr, hein, pourquoi dire la vérité au public ? Ironisa Harry.
Il serra si fort son couteau que les fines cicatrices toujours présentes sur le dos de sa main droite ressortirent, blanchâtres, contre sa peau.
« Je ne dois pas dire de mensonge. »
« Il n'y a donc personne au ministère qui soit prêt à se dresser contre lui ?»
interrogea Ron avec colère.
« Bien sûr que si, Ron, mais les gens sont terrifiés, » répondit M. Wesley. « Terrifiés à l'idée d'être les prochains à disparaître ou de voir leurs enfants attaqués. De terribles rumeurs circulent. Pour ma part, je ne pense pas que le professeur d'études démoldu à Poudlard ait démissionné. Oui, on ne l'a plus vu depuis des semaines. » Pendant ce temps, Scrimgeour reste toute la journée enfermé dans son bureau. J'espère simplement qu'il travaille à un plan d'action. »
Il y eut un silence que Mrs. Wesley mit à profit pour débarrasser par magie les assiettes vides et servir la tarte aux pommes.
« Oh là là, il faut décider comment on va te déguiser, Harry, » dit Fleur, lorsque tout le monde eut mangé son dessert. « Pour le mariage, oh là là, »
ajouta-t-elle devant son air interrogateur.
« Oh, bien sûr, il n'y aura aucun mange-mort parmi nos invités, mais nous ne pouvons pas garantir que personne ne laissera échapper quelque chose à ton sujet après avoir bu du champagne, oh là là !»
Harry en conclut qu'elle soupçonnait toujours Hagrid.
« Oui, c'est vrai !»
lança Mrs. Wesley du bout de la table où elle était assise. Ses lunettes perchées sur le bout de son nez, elle examinait une immense liste de tâches à accomplir qu'elle avait griffonnée sur un très long morceau de parchemin.
« Ron, as-tu rangé ta chambre ?
Pourquoi ? »
s'exclama-t-il. Il jeta bruyamment sa cuillère sur la table et regarda sa mère d'un œil mauvais.
« Pourquoi faudrait-il que je range ma chambre ? Elle nous convient très bien, telle qu'elle est, à Harry et à moi.
Dans quelques jours, nous allons célébrer ici le mariage de ton frère, jeune homme. »«
Et ils vont se marier dans ma chambre ?»
lança Ron avec fureur.
« Non ! Alors pourquoi, par les glandes de Merlin ?»
« Ne parle pas comme ça à ta mère !» trancha M. Wesley d'un ton ferme.
« Et fais ce qu'on te dit !»
Ron regarda ses parents d'un air renfrogné, puis il reprit sa cuillère et s'attaqua au petit morceau de tarte qui restait dans son assiette.
« Je peux t'aider ? Il y a une partie du désordre qui est à moi, » dit Harry à Ron. Mais Mrs. Wesley l'interrompit.
« Non, non, Harry, mon chéri, je préférerais que tu aides Arthur à nettoyer le poulailler. Et toi, Hermione, tu me rendras un grand service si tu voulais bien changer les draps pour monsieur et madame de la cour. Ils arrivent demain matin à 11h. »
Mais il apparut que s'occuper des poulets ne demanderait pas beaucoup de travail.
« Inutile d'en parler à Molly, »
dit Monsieur Wesley à Harry en bloquant l'accès au poulailler.
« Mais Ted, donc, m'a envoyé une bonne partie de ce qui restait de la moto de Sirius, et j'ai rangé tout ça ici, des pièces splendides. Il y a un pot d'échappement, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, une batterie magnifique. Et puis je vais avoir une occasion unique de découvrir comment marchent des freins. J'essayerai de la remonter quand Molly ne... Enfin, je veux dire, quand j'aurai un peu de temps. »
Lorsqu'il revint dans la maison, Mrs. Wesley n'était pas là et Harry en profita pour monter silencieusement l'escalier et rejoindre Ron dans sa chambre sous les toits.
« Oui, oui, ben ça y est, je suis en train de ranger. »«
Ah, c'est toi !»
dit Ron, soulagé en voyant entrer Harry. Ron se rallongea sur le lit qu'il venait manifestement de quitter. La pièce était toujours dans le même désordre qu'au cours de la semaine. Le seul changement, c'était qu'Hermione se trouvait à présent assise dans le coin opposé, patte en rond, son chat orange au poil touffu blotti à ses pieds. Elle était occupée à répartir en deux énormes piles des livres parmi lesquels Harry reconnut quelques-uns des siens.
« Salut, Harry !»
dit-elle, tandis qu'il s'asseyait sur son lit de camp.
« Et toi, comment as-tu fait pour t'échapper ?»« La mère de Ron avait oublié qu'elle m'avait déjà demandé de changer les draps hier avec Ginny, » répondit Hermione.
Elle jeta numérologie et grammaire sur l'un des tas et grandeur et décadence de la magie noire sur l'autre.
« On parlait de Folleuil, » dit Ron à Harry. « Je pense qu'il a peut-être survécu. »
« Bill a vu le sortilège de mort le frapper, » objecta Harry.
« Oui, mais Bill était attaqué lui aussi. Comment peut-il être sûr de ce qu'il a vu ?»« Même si le sortilège l'a manqué, Folleuil est quand même tombé d'une hauteur d'au moins 300 mètres, »
dit Hermione, qui soupesait à présent dans sa main équipe de Quidditch de Grande-Bretagne et d'Irlande.
Il a peut-être utilisé le charme du bouclier.
Fleur dit que sa baguette lui a sauté des mains, fit remarquer Harry.
Ah bah très bien, si vous tenez absolument à ce qu'il soit mort, grommela Ron avec mauvaise humeur en frappant son oreiller d'un coup de poing pour lui donner une forme plus confortable.
Bien sûr que non. On ne tient pas à ce qu'il soit mort, protesta Hermione choquée. C'est horrible qu'il soit mort. Mais nous sommes réalistes.
Pour la première fois, Harry imagina le corps de Folleuil brisé, comme l'avait été celui de Dumbledore, mais toujours avec son œil tournoyant dans son orbite. Il eut une réaction de dégoût, en même temps qu'une bizarre envie de rire.
Les Mangemorts ont sans doute fait le ménage derrière eux, c'est pour ça que personne n'a retrouvé son corps, conclut Ron avec sagesse.
Ouais, dit Harry, comme Barty Croupton, transformé en os et enterré dans le jardin de Hagrid. Ils ont sans doute métamorphosé Maugret et l'ont empaillé.
Ah, ne dis pas des choses pareilles, couina Hermione.
Surpris, Harry se tourna vers elle et la vit fondre en larmes sur son syllabaire lune rousse.
Oh non, s'exclama Harry en se débattant pour se relever de son vieux lit de camp. Hermione, je voulais pas te faire de peine.
Mais dans un grincement sonore de vieux ressorts rouillés, Ron avait bondi du lit et arriva avant Harry auprès d'Hermione. Il lui passa un bras autour des épaules, puis plongea la main dans la poche de son jean et en sortit un mouchoir répugnant qu'il avait utilisé un peu plus tôt pour nettoyer le four. Tirant hâtivement sa baguette magique, il la pointa sur le chiffon et prononça la formule « Tergéo ! Tergéo !» La baguette aspira la plus grande partie de la graisse qui imbibait le tissu. L'air plutôt content de lui, Ron tendit à Hermione le mouchoir qui fumait légèrement.
« Oh, merci Ron, je suis désolée. »
Elle se moucha et eut un hoquet.
« C'est tellement affreux. Juste après Dumbledore, je n'avais jamais imaginé que Folleuil puisse mourir. Il paraissait si solide.
« Je sais, » soupira Ron qui la serra contre lui. « Mais tu sais bien ce qu'il dirait s'il était là. »
Vigilance constante,
répondit Hermione en s'essuyant les yeux.
Exactement, approuva Ron avec un hochement de tête. Il nous dirait de tirer les leçons de ce qui lui est arrivé.
Et la leçon que j'ai tirée, c'est de ne jamais faire confiance à ce lamentable petit trouillard de Montingus. Hermione fut secouée d'un éclat de rire et se pencha en avant pour prendre deux autres livres. Un instant plus tard, Ron lui lâcha brusquement l'épaule. Elle lui avait laissé tomber sur le pied le monstrueux livre des monstres. L'ouvrage se libéra de la ceinture qui le maintenait fermé et fit claquer férocement les bords de sa reliure, tels des mâchoires en les refermant sur la cheville de Ron.
« Oh, je suis désolé !»
s'écria Hermione tandis que Harry arrachait le livre de la jambe de Ron et l'attachait à nouveau.
« D'ailleurs, qu'est-ce que tu fabriques avec tous tes livres ?»
interrogea Ron, qui retournait vers son lit d'un pas claudiquant.
« Et j'essaie de décider quels sont ceux que je vais emporter, » répondit Hermione, « quand nous serons partis à la recherche des Horcruxes. »«
Ah oui, bien sûr !»
dit Ron en se frappant le front du plat de la main. « J'avais oublié que nous devions traquer Voldemort dans une librairie ambulante. »«
Ah, oui, très drôle !»
répliqua Hermione. Elle examina le syllabaire lune rousse.
« Je me demande... » Aurons-nous besoin de traduire des runes? Peut-être. Hein? Je pense que nous devrions le prendre pour être plus sûr.
Elle laissa tomber le syllabaire sur le plus haut des deux tas et prit l'histoire de Poudlard.
Écoutez, dit Harry. Il s'était redressé, assis sur son lit.
Ron et Hermione le regardèrent avec le même mélange de résignation et de défi.
Je sais bien qu'après l'enterrement de Dumbledore, « Vous m'avez dit que vous vouliez venir avec moi, » commença Harry.
« Eh ben, ça y est, c'est reparti !»
lança Ron à Hermione, les yeux au ciel.
« Oui, on savait qu'on y aurait droit !»
soupira Hermione en se tournant à nouveau vers les livres.
« Je pense que je vais prendre l'histoire de Poudlard. Même si nous n'y retournons pas, je ne me sentirais pas à mon aise si je n'avais pas à... »«
Écoutez !» répéta Harry.
« Non, Harry, c'est toi qui vas nous écouter !»
l'interrompit Hermione.
« On vient avec toi !» La décision a été prise il y a des mois, des années, en fait.
Mais silence ! Lui conseilla Ron.
Vous êtes sûr que vous avez bien réfléchi ?
insista Harry.
« Voyons !»
reprit Hermione, en jetant avec un regard féroce, randonné avec les trolls, sur la pile des livres à ne pas emporter.
« Depuis plusieurs jours, je prépare les bagages pour que nous soyons prêts à partir à tout moment, ce qui a nécessité, je te le signale pour ton information, des manipulations magiques passablement difficiles. Sans parler du stock de polynectar préparé par Folleuil que j'ai réussi à détourner sous le nez de la mère de Ron. J'ai aussi modifié les souvenirs de mes parents pour les convaincre qu'ils s'appellent en réalité Wendell et Monica Wilkins et que la grande ambition de leur vie est d'aller s'installer en Australie, ce qu'ils ont fait à l'heure qu'il est. Tout cela pour rendre la tâche de Voldemort plus difficile s'il veut les retrouver et les interroger à mon sujet. Ou au tien, car malheureusement, je leur ai raconté pas mal de choses sur toi. En admettant que je survive à la chasse aux Horcruxes, j'irai rejoindre papa et maman pour lever le sortilège. Sinon, je crois que j'ai utilisé un charme suffisamment puissant pour qu'ils puissent vivre heureux en toute sécurité. Wendell et Monica Wilkins ne savent pas qu'ils ont une fille. Tu comprends ?
Les yeux d'Hermione étaient à nouveau embués de larmes. Ron se releva de son lit, la prit encore une fois par les épaules et regarda Harry en fronçant les sourcils, comme pour lui reprocher son manque de tact. Harry ne trouva rien à dire, notamment parce qu'il était très inhabituel que Ron donne des leçons de tact.
« Hermione, je suis désolé, je ne m'étais pas rendu compte que Ron et moi savons parfaitement ce que nous risquons en t'accompagnant. Eh bien oui, nous le savons. Ron, montre à Harry ce que tu as fait.
Oh »« Non, il vient de manger, » répondit Ron.
« Vas-y, il faut qu'il sache. »
« Bon, d'accord. Bon, tu viens, Harry. »
Pour la deuxième fois, il ôta son bras des épaules d'Hermione et s'avança d'un pas lourd vers la porte.
« Allez, viens !»« Mais où ?»
demanda Harry en suivant Ron dans le minuscule couloir.
« Defendo !»
marmonna Ron, sa baguette pointée vers le plafond bas. Une trappe s'ouvrit juste au-dessus de leur tête et une échelle glissa à leurs pieds.
Un horrible son, moitié gémissement, moitié bruit de succion, leur parvint à travers l'ouverture en même temps que se répandait une odeur infecte semblable à celle d'une bouche d'égout.
C'est votre goule ? Demanda Harry. Il n'avait jamais vraiment vu la créature qui troublait parfois le silence de la nuit.
Eh ben oui, répondit Ron en grimpant l'échelle. Viens jeter un coup d'œil.
Harry monta derrière Ron les quelques barreaux de l'échelle qui menaient dans le minuscule espace du grenier. Il avait passé la tête et les épaules dans l'ouverture lorsqu'il aperçut la créature pelotonnée à 1 ou 2 mètres de lui, profondément endormie dans la pénombre, la bouche largement ouverte.
« Mais on dirait... C'est normal qu'une goule porte un pyjama ?»«
Eh ben non !» répondit Ron.
Il n'est pas non plus normal qu'elle ait des cheveux roux et le visage couvert de pustules.
Harry contempla la créature avec un certain dégoût. Elle avait une taille et une forme humaine, et maintenant que les yeux de Harry s'étaient habitués à l'obscurité, il vit clairement qu'elle était vêtue d'un vieux pyjama de Ron. Il savait par ailleurs que les goules étaient généralement visqueuses et chauves, plutôt que chevelues et recouvertes de cloques violettes visiblement enflammées.
« Et tu vois, c'est moi, » dit Ron.
« Non, je ne vois pas, » répondit Harry.
Ben, « Je t'expliquerai quand on sera revenu dans la chambre. Ne supporte pas l'odeur. »
Ils redescendirent l'échelle, que Ron fit remonter dans le plafond, et rejoignirent Hermione, toujours occupée à trier les livres.
« Quand nous serons partis, la goule viendra habiter dans ma chambre, » dit Ron. « Je crois qu'elle en a très envie, et il est difficile d'en être sûr parce qu'elle ne fait que vémir et baver, mais elle hoche frénétiquement la tête chaque fois que j'en parle. En tout cas, elle est censée être moi, atteinte d'éclabouille. Bon plan, non, hein ?»
Harry ne put qu'afficher sa perplexité.
« Très bon plan, hein ?»
insista Ron, manifestement contrarié que Harry n'ait pas saisi la brillante intelligence du stratagème.
« Réfléchis. Quand on s'apercevra que nous ne revenons pas à Poudlard, tout le monde pensera que nous sommes restés avec toi, Hermione et moi. D'accord ? Ce qui signifie que les Mancemorts iront directement voir nos familles pour essayer d'obtenir des informations sur l'endroit où tu te trouves.
Si tout se passe bien,
Ils croiront que je suis parti avec mes parents, dit Hermione. En ce moment, on entend beaucoup de sorciers nés moldus qui parlent d'aller se cacher quelque part.
Et il est impossible de cacher toute ma famille. Ça paraîtrait trop louche, reprit Ron. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas quitter leur travail.
On va donc faire courir le bruit que je suis atteint d'une éclabouille grave et que je ne peux pas retourner à l'école. Si quelqu'un passe vérifier, maman ou papa montrera la goule couverte de pustules dans mon lit. L'éclabouille est très, très, très contagieuse. Personne ne se risquera à procès. Et peu importe que la goule soit incapable de dire un mot, parce que de toute façon, on ne peut plus parler quand on a le champignon qui se répand jusqu'à l'alouette.
« Tes parents sont d'accord avec ce plan ?» demanda Harry.
« Papa, oui, il a aidé Fred et Dors à transformer la goule. Maman, tu la connais, elle n'acceptera jamais l'idée qu'on s'en aille tant qu'on ne sera pas vraiment parti. »
Il y eut un long silence, brisé seulement par le léger bruit mat que produisaient en tombant les livres qu'Hermione continuait de jeter sur une pile ou sur l'autre. Ron resta assis à l'observer, tandis que Harry les regardait tour à tour, incapable de prononcer la moindre parole. Les mesures qu'ils avaient prises pour protéger leur famille constituaient la meilleure preuve qu'ils étaient vraiment décidés à partir avec lui en étant pleinement conscients des dangers qui les attendaient. Il aurait voulu leur dire tout ce que cela signifiait pour lui, mais ne trouvait pas de mots assez forts. Dans le silence, leur parvinrent les clameurs étouffées de Mrs. Weasley qui criait quatre étages plus bas.
« Ginny a sans doute oublié un grain de poussière sur un rond de serviette à 3 sous, dit Ron.
« Je vois pas pourquoi il faut absolument que les deux Lacour arrivent 2 jours avant le mariage.
La sœur de Fleur sera demoiselle d'honneur. Elle doit être là pour la répétition et elle est trop jeune pour venir toute seule, » répondit Hermione, qui examinait d'un air indécis Flannery avec le spectre de la mort.
« Avoir des invités n'aidera pas maman à calmer son stress, » remarqua Ron.
Sans hésiter, Hermione jeta à la corbeille théorie des stratégies de défense magique, mais conserva le guide des écoles de sorcellerie en Europe.
« Ce que nous devons vraiment décider, dit-elle, c'est notre destination quand nous partirons d'ici. Je sais que tu voulais d'abord aller à Godric's-on-Low, Harry, et je comprends pourquoi, mais... Enfin bon, est-ce que notre priorité ne devrait pas être les Horcruxes ?
« Je serais d'accord avec toi si nous savions où en trouver un, » répondit Harry. Il ne pensait pas qu'Hermione comprenait véritablement son désir de retourner à Godric's-on-Low. Ce n'était pas seulement la tombe de ses parents qui l'attirait là-bas. Il avait aussi le sentiment inexplicable mais profond que cet endroit pouvait apporter des réponses à ses questions. Peut-être tout simplement parce que c'était là qu'il avait survécu au sortilège de la mort du Seigneur des Ténèbres. À présent, qu'il était mis au défi de renouveler cet exploit, Harry éprouvait le besoin de retourner vers le lieu où il s'était produit pour essayer de comprendre.
« Ne crois-tu pas que Voldemort pourrait surveiller Godric's-on-Low ? » s'inquiéta Hermione. « Il s'attend peut-être à ce que tu y retournes pour voir la tombe de tes parents, maintenant que tu peux aller où tu veux. »
Harry n'y avait pas pensé. Tandis qu'il s'efforçait de trouver un argument à lui opposer, Ron parla à son tour, réfléchissant manifestement à haute voix.
« La personne qui a signé R.A.B. » dit-il. « Tu sais, celui qui a volé le médaillon. »
Hermione acquiesça d'un signe de tête.
« Dans le mot qu'il a laissé, il a écrit qu'il allait le détruire, c'est bien ça ?»
Harry tira vers lui son sac à dos et en sortit le faux Horcrux, qui contenait toujours le message de R.A.B.
« J'ai volé le véritable Horcrux et j'ai l'intention de le détruire dès que je le pourrai, »
lut Harry à haute voix.
« Et s'il a vraiment réussi à le détruire ?» demanda Ron.
« Il ou elle ?» précisa Hermione.
« Oh, peu importe, » dit Ron. « Ça en fera un de moins pour nous. »«
Oui, mais il faudra quand même que nous tentions de retrouver le vrai médaillon, non ?» objecta Hermione.
« Pour savoir si oui ou non ?» Il a été détruit ? Eh bien, une fois qu'on aura mis la main dessus, on s'y prend comment pour détruire un Horcrux ?
Justement, répondit Hermione, j'ai fait des recherches à ce sujet.
Comment ça ? S'étonna Harry.
Je croyais qu'il n'y avait pas de livre sur les Horcrux à la bibliothèque.
En effet, il n'y en a pas, admit Hermione, dont les joues avaient rosi.
Dumbledore les a tous enlevés, mais il ne les a pas détruits.
Ron se redressa les yeux écarquillés.
par le caleçon de Merlin. Mais comment as-tu fait pour dénicher des livres sur les Horcruxes ?»«
Mais ce n'était pas du vol, »
assura Hermione en regardant successivement Harry et Ron d'un air éperdu.
« Ils appartenaient toujours à la bibliothèque, même si Dumbledore les avait enlevés des étagères. Et d'ailleurs, s'il avait vraiment voulu que personne ne puisse les consulter, je suis sûr qu'il aurait été beaucoup plus difficile de...
« Viens-en au fait !» s'exclama Ron.
« Eh bien, c'était facile, » répondit Hermione d'une petite voix. « J'ai simplement utilisé un sortilège d'attraction. Vous savez, Accio et... Et ils sont aussitôt sortis par la fenêtre du bureau de Dumbledore en filant droit vers le dortoir des filles.
« Et quand as-tu fait ça ?» demanda Harry, qui fixait Hermione avec un mélange d'admiration et d'incrédulité.
« Ben juste après son enterrement. L'enterrement de Dumbledore, »
expliqua Hermione d'une voix encore plus fluette.
« Juste après avoir pris la décision de quitter l'école pour retrouver les Horcruxes. Quand je suis remontée chercher mes affaires... J'ai pensé que plus on en saurait à ce sujet, mieux ça vaudrait. J'étais seul, là-haut. Alors j'ai essayé. Et puis ça a marché. Les livres se sont engouffrés par la fenêtre ouverte et je les ai mis dans ma valise. »
Elle déglutit, puis ajouta d'un air suppliant.
Je suis sûr que Dumbledore ne m'en aurait pas voulu. Ce n'est pas comme si nous voulions nous en servir pour fabriquer des Horcruxes, non ?
Est-ce qu'on fait plein de quelque chose ? Répliqua Ron. Alors où sont ces livres ?
Hermione fouilla quelques instants, puis retira de la pile un gros volume à la reliure de cuir noir, usé. L'air un peu dégoûté, elle le manipula avec précaution comme s'il s'agissait d'une créature morte récemment.
« Voici celui qui donne des instructions explicites sur la façon de créer un Horcrux. Secrets les plus sombres des forces du mal. C'est un livre abominable, vraiment affreux, rempli de magie maléfique. Je me demande quand Dumbledore l'a retiré de la bibliothèque. S'il ne l'a pas fait avant d'être directeur, je suis prête à parier que Voldemort y a trouvé tous les renseignements dont il avait besoin. »
Dans ce cas... Pourquoi aurait-il demandé à Slughorn comment fabriquer un Horcrux, s'il avait déjà lu tout ça ?
Interrogea Ron. Il a seulement demandé à Slughorn ce qui se passerait si on séparait son âme en sept parties, répondit Harry.
Dumbledore était certain que Gédusor savait déjà comment faire un Horcrux lorsqu'il a posé la question à Slughorn. Je crois que tu as raison, Hermione. Il aurait très bien pu tirer ces informations de ce livre. Et plus j'avançais dans ma lecture... reprit Hermione, plus je trouvais cela horrible, et moins j'arrivais à croire qu'il en ait véritablement créé six. Le livre explique que lorsqu'on en arrache une partie, l'âme devient très instable, même quand on ne fabrique qu'un seul Horcrux.
Harry se souvint que Dumbledore avait dit de Voldemort qu'il était allé au-delà des limites de ce qu'on appelle habituellement le royaume du mal.
« N'y a-t-il pas moyen de reconstituer son âme en rassemblant les morceaux ?» demanda Ron.
« Si, » répondit Hermione avec un pâle sourire, « mais ce serait atrocement douloureux. »«
Pourquoi ? Comment y parvient-on » interrogea Harry.
« Par le remords, » répondit Hermione. « Il faut ressentir profondément le mal qu'on a fait. Il y a un détail annexe. Apparemment, la douleur éprouvée est telle qu'elle peut te détruire. » J'imagine mal Voldemort tentant l'expérience, et vous ?
Moi aussi, dit Ron, avant que Harry ait pu parler. Mais est-ce qu'on explique comment détruire les Horcruxes dans ce livre ?
Oui,
déclara Hermione, qui tournait à présent les pages fragiles de l'ouvrage comme si elle examinait des entrailles en décomposition.
Les sorciers sont avertis qu'ils doivent les entourer d'enchantements très puissants. D'après tout ce que j'ai lu, ce que Harry a fait au journal de Gédusor est un des rares moyens efficaces d'anéantir un Horcrux.
Quoi ? Tu veux dire le transpercer avec un crochet de basilic ?
S'étonna Harry.
Bah quel sens, hein ! On a justement tout un stock de crochets de basilic à notre disposition, lança Ron. Je me demandais comment on allait les utiliser.
Il n'est pas nécessaire que ce soit un crochet de basilic,
reprit Hermione d'un ton patient.
Il faut quelque chose
de tellement destructeur que l'Horcrux ne puisse pas se réparer de lui-même. Le venin de basilic n'a qu'un seul antidote, qui est extrêmement rare.
Les larmes de phénix, acheva Harry, avec un hochement de tête.
Exactement, approuva Hermione. L'ennui, c'est qu'il existe très peu de substances aussi destructrices que le venin de basilic, et elles sont toutes très dangereuses à transporter. Mais il faudra bien que nous trouvions une solution, car briser, frapper, écraser un horcrux n'a aucun effet. On doit l'endommager au point qu'aucune magie ne puisse le réparer.
Mais même si nous détruisons la fosse dans laquelle il vit, pourquoi le fragment d'âme ne pourrait-il pas aller s'abriter dans un autre objet ? Dit Ron.
Parce qu'un horcrux est l'exact opposé d'un être humain.
Devant l'air décontenancé de Harry et de Ron, Hermione se hâta de poursuivre.
Si je prenais brusquement une épée et que je te la passe au travers du corps, Ron, je n'infligerais aucun dommage à ton âme.
Ce qui serait pour moi une grande consolation, assura Ron. Harry éclata de rire.
J'espère bien. Mais ce que je veux démontrer, c'est que quoi qu'il arrive à ton corps, ton âme reste intacte, continua Hermione. Avec un horcrux, en revanche, c'est l'inverse. La survie du fragment d'âme qui est enfermé dépend de son contenant, de cette espèce de corps ensorcelé. Le morceau d'âme ne peut plus exister sans lui.
Ce journal a eu l'air de mourir quand j'y ai enfoncé le crochet du basilic, confirma Harry en se souvenant de l'encre qui ruisselait comme du sang sur les pages transpercées et des hurlements poussés par le fragment de l'âme de Voldemort avant de disparaître.
Une fois le journal véritablement détruit, le morceau d'âme qui y était enfermé ne pouvait survivre. Avant toi, Ginny a essayé de se débarrasser du journal en le jetant dans les toilettes, mais il est réapparu comme neuf.
Attends un peu, coupa Ron les sourcils froncés.
Le morceau d'âme contenu dans ce journal avait pourtant possédé Ginny, n'est-ce pas?
Comment cela peut-il arriver?
Tant que l'horcrux est intact, le fragment d'âme qu'il contient peut pénétrer à l'intérieur d'une personne et en sortir à sa guise si cette personne s'approche trop près de l'objet. Je ne veux pas dire le toucher longtemps. Ce n'est pas une question de contact physique, ajouta-t-elle, avant que Ron ait pu intervenir. Je veux plutôt parler d'une proximité émotionnelle. Ginny a ouvert son cœur à ce journal. Elle s'est rendue incroyablement vulnérable. On a de gros ennuis quand on s'attache trop à un horcrux ou qu'on en devient dépendant.
Je me demande comment Dumbledore s'y est pris pour détruire l'anneau, dit Harry.
Pourquoi ne lui ai-je pas posé la question? Je n'ai jamais vraiment...
Sa voix se perdit. Il pensa à tout ce qu'il aurait dû demander à Dumbledore depuis la mort du directeur de Poudlard. Il avait l'impression d'avoir laissé passer trop d'occasions, quand il était encore vivant, d'en savoir plus, de tout savoir. Le silence fut brutalement brisé par le fracas de la porte de la chambre qui s'ouvrit à la volée en heurtant le mur avec tant de force qu'il en trembla. Hermione poussa un cri aigu et laissa tomber les secrets les plus sombres des forces du mal. Patanron fila sous le lit en crachant avec indignation. Ron se leva d'un bond, glissa sur un vieil emballage de choco-grenouille et se cogna la tête contre le mur d'en face. Harry, d'un geste instinctif, se précipita sur sa baguette avant de s'apercevoir qu'il se trouvait face à Mrs. Weasley, échevelé, le visage déformé par la rage.
« Je suis désolée de troubler cette petite réunion intime !» dit-elle, la voix frémissante. « Je ne doute pas que vous ayez bien besoin de repos, mais figurez-vous qu'il y a dans ma chambre un tas de cadeaux de mariage qui ne demandent qu'à être triés. Or, il m'a semblé que vous étiez d'accord pour donner un coup de main !»«
Oh oui, bien sûr !»
s'exclama Hermione, qui se leva aussitôt, l'air terrifié, en voyant des livres voler en tous sens.
« Nous allons... nous sommes désolés !»
Elle lança un regard anxieux à Harry et à Ron, puis sortit de la pièce derrière Mrs. Weasley.
« J'ai l'impression d'être un elfe de maison, » se plaignit Ron à voix basse en se massant la tête. « Sauf que ce n'est pas la satisfaction du travail accompli. Plus vite ce mariage sera terminé, plus je serai content, » ajouta-t-il, tandis qu'il leur emboîtait le pas en compagnie de Harry.
« Ouais, » répondit celui-ci, « nous n'aurons plus rien d'autre à faire qu'à trouver les horcrux. Ça ressemblera à des vacances. » Ron se mit à rire, mais lorsqu'il vit l'énorme tas de cadeaux qui les attendaient dans la chambre de Mrs. Weasley, son rire s'étrangla soudain dans sa gorge. Les deux la cour arrivèrent le lendemain matin à 11 heures. Harry, Ron, Hermione et Ginny éprouvaient une franche animosité à l'égard de la famille de Fleur. Et ce fit avec mauvaise grâce que Ron remonta dans sa chambre pour mettre des chaussettes identiques et que Harry s'efforça d'aplatir ses cheveux en bataille. Lorsque Mrs. Weasley estima qu'ils étaient suffisamment présentables, ils se rassemblèrent dans la cour ensoleillée à l'arrière de la maison pour y attendre les invités. Harry n'avait jamais vu l'endroit aussi impeccable. Le chaudron rouillé et les vieilles bottes qui encombraient habituellement les marches avaient disparu, remplacées par deux nouvelles plantes à pipaillons qui se dressaient dans le grand pot disposé de chaque côté de la porte. Bien qu'il n'y eût aucune brise, les feuilles se balançaient paresseusement dans un élégant mouvement d'ondulation. Les poulets avaient été enfermés, la cour balayée et la végétation du jardin contigu soigneusement taillée. Élagué, remodelé dans son ensemble. Mais Harry, qui la préférait dense et touffue, trouvait le jardin un peu triste quand on n'y voyait pas gambader les habituelles cohortes de gnomes. Il n'aurait su dire combien de sortilèges de protection avaient été déployés autour du terrier, à la fois par l'ordre et par le ministère. Tout ce qu'il savait, c'était qu'on ne pouvait plus y entrer ou en sortir directement par des moyens magiques. Aussi, M. Weasley était allé attendre les deux la cour au sommet d'une colline voisine où ils devaient arriver par porte au loin. Leur approche fut signalée par un rire étrangement aigu qui se révéla être celui de M. Weasley. Quelques instants plus tard, il apparut à la porte chargé de bagages et montrant le chemin à une très belle femme blonde, vêtue d'une longue robe vert foncé qui ne pouvait être que la mère de Fleur.
« Oh là là, maman !»
s'écria Fleur en se précipitant pour la serrer dans ses bras.
« Papa !»
Monsieur de la cour était loin d'avoir le charme de son épouse. Il avait une tête de moins qu'elle, une silhouette très enveloppée et une barbichette noire et pointue. Mais il semblait d'une bonne nature. Chaussé de bottes à talons hauts, il s'avança d'un pas bondissant vers Mrs. Weasley et l'embrassa deux fois sur chaque joue, la laissant dans un état de grande confusion.
« Il ne fallait pas vous donner tant de mal, » déclara-t-il d'une voix grave. « Fleur nous a expliqué que vous avez eu un gros travail, beaucoup de hard work, comme on dit chez vous.
Oh, »« Oh, ce n'est rien, non, ce n'est rien, »
roucoula Mrs. Weasley. « Nous ne nous sommes donné aucun mal, c'était un plaisir. » Ron se défoula en décochant un coup de pied à un gnome qui avait passé la tête derrière l'une des plantes à pipaillons.
« Cher Milady !»
s'exclama d'un air rayonnant Monsieur de la Cour, qui tenait toujours la main de Mrs. Weasley entre ses doigts potelés.
« Croyez bien que l'union entre nos deux familles qui s'avancent à grands pas sera pour nous un honneur considérable. Permettez que je vous présente mon épouse, Apolline !»
Madame de la Cour s'approcha avec grâce et se pencha vers Mrs. Weasley pour l'embrasser à son tour.
« Oh là là ! Enchantée ! » dit-elle. « Votre mari nous a conté les histoires d'une exquise drôlerie !»
Monsieur Weasley eut un petit rire nerveux. Mrs. Weasley lui lança un regard qui le fit taire aussitôt. Le visage de Monsieur Weasley prit l'expression de quelqu'un qui rendrait visite à un ami proche sur son lit de bord.
« Bien entendu, vous connaissez déjà Gabrielle, ma fille cadette !» poursuivit Monsieur de la Cour.
Gabrielle ressemblait à Fleur en miniature. Elle avait 11 ans et une longue chevelure d'un blond pur argenté qui lui tombait jusqu'à la taille. Elle adressa à Mrs. Weasley un sourire éclatant et la serra dans ses bras, puis lança à Harry un regard de braise en battant des cils. Ginny s'éclaircit bruyamment la gorge.
« Eh bien, venez, entrez !»
dit Mrs. Weasley d'un ton joyeux. Et elle emmena les deux la cour à l'intérieur de la maison à grand renfort de
« Allez-y, s'il vous plaît !»«
Oh non, après vous, je t'en prie, non, monsieur !»«
Oh là là, je n'offrais rien !»« Monsieur, je t'en prie !»
Les deux la cour se révélèrent des hôtes plaisants et serviables. Ils étaient contents de tout et ravis d'aider aux préparatifs du mariage. Monsieur de la cour qualifiait tout ce qu'on lui montrait de
« charming », comme on dit chez vous, hein ?
Depuis le plan de table jusqu'aux chaussures des demoiselles d'honneur. Madame de la cour était une virtuose des sortilèges ménagers et nettoya impeccablement le four en un tournement. Gabrielle ne quittait pas sa sœur aînée, essayant d'apporter son aide de toutes les manières possibles, parlant sans cesse dans un français trop rapide pour qu'on puisse la comprendre. Le terrier n'était malheureusement pas conçu pour héberger tant de monde. Monsieur et Mrs. Wesley dormaient à présent dans le salon après avoir insisté pour que Monsieur et Madame de la Cour occupent leur chambre en faisant taire à grands cris leurs protestations. Gabrielle dormait avec Fleur dans l'ancienne chambre de Percy et Bill partagerait la sienne avec Charlie, son garçon d'honneur, lorsque celui-ci arriverait de Roumanie. Harry, Ron et Hermione n'avaient pratiquement plus d'occasion de se retrouver ensemble pour établir leur plan et en désespoir de cause, ils se portèrent volontaires pour aller nourrir les poulets dans le seul but d'échapper à la maison surpeuplée. « Elle ne veut toujours pas nous laisser seuls, » gronda Ron, lorsque leur deuxième tentative de réunion dans la cour fut contrariée par l'apparition de Mrs. Wesley à un grand panier de lessive sous le bras.
« Ah, très bien! Vous avez donné à manger aux poulets !»
lança-t-elle en venant vers eux.
« On ferait bien de les enfermer de nouveau avant l'arrivée des ouvriers demain. Ils doivent monter le chapiteau »
expliqua-t-elle. Mrs. Wesley s'arrêta pour s'appuyer contre le mur du poulailler. Elle paraissait épuisée.
Les chapiteaux magiques, mille amants. Ce sont les meilleurs. Bill va les escorter. Oh, tu ferais bien de rester à l'intérieur pendant qu'ils seront là, Harry. Je dois dire que ça complique un peu les choses d'organiser un mariage avec tous ces sortilèges de protection autour de nous.
Je suis désolé, dit humblement Harry.
Allons, oh, ne sois pas stupide, mon chéri, répliqua Mrs. Wesley. Je ne voulais pas dire. Oh, tu sais bien que ta sécurité passe avant tout. Au fait, Harry, je voulais te demander, comment tu voulais fêter ton anniversaire le jour de tes 17 ans? C'est important.
Je voudrais quelque chose de tranquille, dit précipitamment Harry, en songeant à l'effort supplémentaire qui en résulterait pour eux tous.
Sincèrement, Mrs. Wesley, un simple dîner serait parfait. C'est la veille du mariage.
Oh, bah, très bien. Si tu es sûr que cela te convient, je pourrais peut-être inviter Rémus et Tong, hein? Qu'en penses-tu?
Et Hagrid?
Oh, ce serait formidable, répondit Harry. Mais s'il vous plaît, ne vous donnez pas trop de mal.
Pas du tout, pas du tout. Ce sera un plaisir.
Elle le regarda d'un long regard pénétrant, puis elle eut un petit sourire triste, se redressa et s'éloigna. Harry la vit agiter sa baguette près de la corde à linge. Les vêtements humides s'élevèrent aussitôt du panier pour aller se suspendre tout seul, et Harry sentit soudain monter en lui comme une vague de remords en pensant à toutes les difficultés, à toutes les souffrances qu'il lui infligeait.